Radio Capi. Oh,
Capi. Le journal Nico Calambay.
Certains magasins et galeries n'ont pas ouvert et les activités scolaires ont timidement repris à Butembo ce lundi, ce après pratiquement deux semaines de paralysie à la suite des manifestations demandant le retour de la paix et le départ de la MONUSCO de la région. Reprise ce 20 avril des plaidoiries dans le dossier qui oppose la République démocratique du Congo à l'Ouganda, le vice-premier ministre et ministre congolais de la justice intérimaire que vous écouterez dans ce journal annonce que la RDC va contraindre l'Ouganda à payer les réparations pour violation de la souveraineté territoriale de la RDC et les droits de l'homme entre 1998 et 2003. Abbé Franck Mbomba, prêtre de l'église catholique et chercheur et analyste sociopolitique résident en Allemagne, est notre invité. Il réagit sur la proposition de loi de Noël Tchani, ancien candidat à la présidentielle 2018. Proposition de loi qui conditionne l'accès au poste de président de la République par la détention de la nationalité congolaise de père et de mère. Bienvenue à tous à l'écoute de ce journal. Le président de la République de Somalie, Mohamed Abdoulaye Mohamed, est arrivé au milieu de la nuit de ce lundi à Kinshasa pour une visite de travail avec son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine. Il est venu s'entretenir en présentiel avec le président en exercice de l'Union africaine. Le programme de cette visite de travail prévoit dans la matinée de ce lundi un tête-à-tête avec le président Félix Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine. À son arrivée, le président somalien n'a pas fait de déclaration à la presse. C'est à la demande de la présidence somalienne que cette visite de travail auprès du président de l'Union africaine est organisée, indique la presse présidentielle congolaise. Les activités scolaires ont timidement repris ce lundi à Butembo après pratiquement deux semaines de paralysie à la suite des manifestations demandant le retour de la paix et le départ de la MONUSCO de la région. Pour ce qui est des activités économiques, les grandes maisons de commerce de la ville et toutes les galeries restent toujours fermées. Sadiki Aboubakar pour les détails.
Dans la plupart des écoles primaires et secondaires de la ville, moins de la moitié d'élèves se sont présentés ce lundi. C'est le cas de l'Institut Kambali, où les proviseurs affirment qu'un tiers d'élèves seulement s'est présenté. Ceux qui étaient présents ont été occupés par les enseignants disponibles. Non loin de là, dans la vallée de Kavaindi, la quasi-majorité des élèves n'a pas répondu à l'appel. Nous avons d'ailleurs rencontré un enseignant rentrant chez lui, faute d'occupation. Le même constat a été fait au complexe scolaire La Bourgeoisie, où les enseignants se sont trouvés face à un effectif d'élèves inférieur à la moyenne. Le chef de la division provinciale de l'EPST Nord Kivu 2, Ada Kudawa appelle à la mobilisation de tous, parents, enseignants et élèves à la reprise normale des cours ce mardi. Pour ce qui est des activités commerciales, toutes les galeries de commerce et les grands magasins de la ville restent encore fermés. Tous nos efforts pour avoir la réaction de la Fédération des entreprises du Congo FEC à ce sujet n'ont pas abouti. Toutefois, à part les grandes activités commerciales dans la ville, tout est presque revenu à la normale. Butembo, Sadiki Aboubakar, Radio Kapi.
À Butembo, plus de 30 présumés bandits armés ont été présentés ce lundi à la presse par le maire de la ville. Parmi eux, on retrouve des criminels utilisés par les militaires déserteurs pour déstabiliser la région et les Maïmaï qui planifiaient une attaque contre notamment la MONUSCO le 15 avril dernier, indique l'autorité urbaine. Le maire de la ville invite ainsi la population à plus de responsabilité et de vigilance pendant cette période de crise pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Grâce à Mzati, reportage.
Ils sont au total 36, tous porteurs d'au moins 3 armes à feu, des armes blanches et des gris-gris. Le maire Sylvain Kanyamanda explique.
Le premier groupe, c'est un groupe de criminels qui utilisaient des armes à feu et que leurs responsables, leurs chefs, ce sont des militaires déserteurs, des Noé FARDC, qui usent de leurs armes pour aller endeuiller notre communauté, notre population. Et le dernier groupe, ce sont des Maïmaï qui, profitant de ces semaines ici de ville morte, de ces manifestations contre la MONUSCO, qui préparaient une attaque sur la ville, une attaque notre camp de Rwanda, une attaque sur les Kije de la MONUSCO. Et que nos services que nous félicitons ici sont parvenus à déjouer les jeux.
D'où son appel à toute la population à plus de vigilance et de responsabilité pendant cette période.
Nous pouvons penser qu'on est en train de réclamer X choses, mais derrière ça, on est infiltré avec d'autres qui planifient d'autres actions. Imaginez-vous si la ville était attaquée le 15 au nom de ces manifestations contre la MONUSCO, qui serait responsable? Enfin, je dis à la population d'être calme. La ville est surveillée, la ville est protégée.
Après présentation, tous ces présumés bandits devraient être transférés au parquet militaire, nous a indiqué le maire. Butembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
Et puis les activités socio-économiques toujours paralysées ce lundi dans la ville de Béni, malgré certains messages annonçant la suspension des journées ville morte et la reprise des activités ce lundi. Toutes les maisons de commerce sont restées fermées, hormis les pharmacies et certaines structures hospitalières. André Kitenge nous fait le point.
Alors que les habitants de la ville de Béni se sont réveillés avec l'espoir de voir la reprise des activités socio-économiques après bientôt 2 semaines de paralysie, cela n'est pas toujours le cas. Les activités socio-économiques restent paralysées en dépit des messages de paix et d'appels à la reprise des activités lancées par les autorités locales et certaines organisations de la société civile. Les écoles n'ont pas ouvert et les propriétaires de certaines maisons de commerce qui tentent d'ouvrir leurs portes sont menacés par des groupes de jeunes se disant appartenir à des groupes de pression et mouvements citoyens. Ces jeunes s'attaquent même à certains conducteurs de moto-taxis là où ils sont positionnés. Seules les pharmacies ont ouvert leurs portes dans le quartier commercial d'Imatongé. Pendant ce temps, dans certains quartiers, ces jeunes continuent d'ériger des barricades empêchant toute circulation sur la voie publique, hormis le boulevard Nyamwissi. À certains endroits, ce sont les éléments de la police en patrouille qui enlèvent ces barricades, aussitôt remises après leur départ. Rappelons que ces manifestants réclament depuis bientôt 2 semaines le retour de la paix et le départ des organisations internationales dont la MONUSCO de la région de Béni. André Kitenge, Béni Radio Okapi.
Signalons que plusieurs élèves à Béni ont envahi tôt ce matin la cour de la mairie. Ces derniers, dans un mémorandum remis au maire de la ville, appellent à la présence du chef de l'État à Béni dans les 72 heures pour statuer sur la situation sécuritaire, mais aussi sur leur cas, les cours étant suspendus depuis plus de 2 semaines à cause des manifestations anti-sécurité. L'autorité urbaine qui a reçu le mémo les a rassurés. Le maire de la ville de Bounia invite la population à vaquer normalement à ses occupations. Ferdinand Fimbo réagit aux rumeurs qui font état de journée ville morte annoncée ce lundi par plusieurs structures citoyennes, parmi lesquelles la société civile de l'Itouri. Le numéro 1 de la ville estime que cette situation va pénaliser davantage les opérateurs économiques et la population qui font face déjà aux défis sécuritaires. Il invite plutôt les uns et les autres à conjuguer les efforts pour mettre fin à l'insécurité qui endeuille cette province. Ferdinand Fimbo au micro de Jean-Claude Loki.
Avec les coûts de vie, les routes qui sont fermées presque sur tous les axes, ça constitue un problème très sérieux pour le ravitaillement de la ville de Bougne. Et aujourd'hui, demander à ce que les gens puissent observer des journées ville morte, je pense que là, nous envoyons droitement les gens vers la tombe, ce qui n'est pas une situation que nous pouvons vraiment accepter en ce moment, parce que une maman, par exemple, vendeuse de tomates, vous lui demandez de rester à la maison avec ses tomates, qu'elle ne sera pas consommée. Et après 2 jours, peut-être, ça va pourrir encore. C'est son capital qui disparaît. Nous sommes en train de demander à la population de continuer à vaquer librement à ses occupations. Les temps sont fâchés, la crise est là. Et si nous croisons encore les bras, je pense que c'est une occasion encore de plus pour nous appeler à mourir. Donc nous avons tout intérêt à continuer à travailler, tant soit peu, à continuer encore à faire ce qui est dans ses prérogatives pour qu'on arrive quand même, tant soit peu, à résoudre ces problèmes.
La République démocratique du Congo lance ce lundi 19 avril la campagne de vaccination contre la pandémie de coronavirus. En ce moment, le pays compte, selon les statistiques officielles datées du 18 avril, 28 956 cas, dont 28 955 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 745 décès et 25 841 personnes guéries. La vaccination contre le coronavirus avec le vaccin AstraZeneca débute sur toute l'étendue de la RDC. Elle sera volontaire, mais commencera avec le personnel soignant. Cette décision avait été annoncée le 13 avril au cours de la réunion de la task force présidentielle contre cette pandémie. Je le disais en titre, condamné depuis 2005 par la Cour internationale de justice à payer les réparations au profit de la RDC pour violation de la souveraineté nationale du Congo démocratique et des droits de l'homme entre 1998 et 2003, l'Ouganda ne s'est toujours pas encore exécuté. Au cours d'un entretien ce week-end avec les médias congolais, le vice-premier ministre et ministre de la justice intérimaire sortant parle de la reprise des plaidoiries ce 20 avril. D'après maître Bernard Takaiché, ayant constaté les atermoiements de l'Ouganda caractérisant une mauvaise foi à ne pas réparer les préjudices infligés à la nation congolaise, le ministère de la Justice a reconstitué et consolidé la défense congolaise qui a ramené le dossier au niveau de la Cour internationale de justice pour contraindre cette fois-ci l'Ouganda à payer. Maître Bernard Takaiché, vice-premier ministre et ministre de la Justice intérimaire sortant, s'exprime au micro de Billy Yvan Lutumba.
Il y avait de la mauvaise foi dans le chef de Buganda qui faisait semblant de négocier alors qu'il n'avait pas l'intention de négocier. Alors la RDC a pris la décision de clore ce dossier devant la justice et c'est ça ce que nous sommes en train de faire. Quand j'ai pris le dossier, il y a eu une mauvaise gestion de ce dossier-là. J'ai essayé de remettre un peu les choses dans l'ordre. J'ai dissous la commission qui était là, une histoire budgétivore. J'ai récupéré tous les avocats internationaux qui avaient fait déjà défection du fait que la gestion n'était pas correcte. J'ai nommé un autre co-agent, la personne du professeur Mingacha. Et aujourd'hui, sans risque de me tromper, nous avons une très bonne défense. Les plaidoiries vont commencer d'ici le 20 avril ici, et je pense à l'issue de cette procédure de plaidoirie, nous aurons de bons résultats, même au-delà de ce que nous on prétendait. Avant, on avait tablé sur 13 milliards de dollars, mais pour le moment, sauf appréciation de la Cour, mais je crois que les experts qui ont travaillé, avec l'appui de l'équipe que nous avons mise en place, nous sommes en train de plancher sur 76 milliards de dollars. Et voilà pourquoi je dis à la République démocratique du Congo, nous devons être respectueux des engagements que nous prenons. Et je pense qu'aujourd'hui, ces avocats sont en train de nous prendre au sérieux, parce qu'ils sont en train d'être
au Congo, le ministre provincial des Finances, Tite Munda, est visé par une question orale avec débat. L'auteur de cette question orale est le député provincial Socrate Kangoulouba, élu de la circonscription électorale du territoire de Féchi, qui soupçonne notamment le soupçonne donc de détournement et des deniers publics. Celui-ci veut voir clair sur les finances produites par les régies financières du Congo et sur leur affectation réelle. Selon lui, ces régies produisent beaucoup de recettes, mais rien n'est fait pour le bien de la population. Le ministre provincial des Finances, quant à lui, est prêt pour répondre à cette question orale, car selon lui, il s'agit d'un exercice démocratique. Irène Boma.
Au total, 20 questions principales sont reprises dans les documents contenant cette question orale adressée au ministre provincial des Finances du Congo, Tite Munda. L'initiateur de la dite question orale avec débat, le député provincial Socrate Kangoulouba, soupçonne notamment le détournement des deniers publics et la malversation des recettes produites par les régies financières de la province, alors qu'aucune réalisation de la part de l'exécutif provincial n'est visible en faveur de la population. Socrate Kangoulouba.
Il y a la mauvaise gestion. Nous avons des régies financières. Cette régie a été créée pour assurer la reconstruction de la province et puis réhabilitation des routes dans les cadres de cantonnage manuel. L'argent entre chaque jour, mais l'exécutif est incapable de poser une action. Et il n'y a aucune action. C'est la raison pour laquelle, comme c'est le ministre qui est considéré comme la plaque tournante en ce qui concerne le finance, l'honorable Kangoulouba a jugé bon d'inviter le ministre qu'il puisse quand même fournir des explications devant l'organe délibérant.
Et pour sa part, Tite Munda, ministre provincial des Finances indexé, s'est dit prêt pour répondre à cet exercice démocratique et fournir des éléments de réponse. Notez que le débat de cette question orale est prévu pour ce mardi 20 avril à l'Assemblée provinciale du Kwango. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
À Lubumbashi, la vente des œufs se fait à plusieurs endroits et le prix varie de 4 500 francs à 5 000, voire 5 500 francs congolais. Ce prix, bien qu'abordable, est encore jugé excessif par certains louchois qui aimeraient aussi que les fermiers en produisent plus. Les détails avec vous, Jean Guindou.
La production des œufs dans les Haut-Katanga se fait par plusieurs fermiers. D'autres encore les importent de la Zambie voisine. Ce qui fait que le marché local est inondé de ces produits. Un carton de 12 plateaux contenant 30 œufs chacun revient à 29 dollars américains. Chez certains revendeurs grossistes, un plateau est vendu à 4 500 voire 5 000 francs congolais. Chez les détaillants, des œufs se négocient à 500 francs congolais. Chez d'autres encore, ce sont 3 œufs qui sont vendus à 500 francs congolais. Ce prix, bien que paraissant abordable, certains louchois rencontré voudrait qu'il soit encore revu à la baisse. Témoignage de ce père de famille rencontré dans la commune de Lubumbashi.
Les prix auparavant c'était 4 œufs pour 500 francs, mais pour le moment ça devient 3, il y a d'autres qui mettent même 2. Il faut que les œufs qui viennent de Kasumbalesa, ça devient à 5 000, 4 500 le plateau, mais auparavant c'était 3 500. On souhaite que ça diminue encore, que les fermiers d'ici produisent beaucoup pour que la situation change.
Certains fermiers ont installé des points de vente à travers la ville pour se rapprocher davantage des revendeurs et autres consommateurs, ce qui permet à certains commerçants de ne pas faire des longs déplacements jusqu'en Zambie pour s'approvisionner en ce produit prisé par les louchois. Lubumbashi, Jean Guindou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Deux pays africains, l'Égypte et le Nigeria, ont décidé de financer les recherches pour trouver leur propre vaccin contre le coronavirus. Le Centre de recherche national égyptien a ainsi autorisé fin mars à lancer les essais cliniques de son Covivax avec l'ambition affichée de produire sur place pour desservir le marché intérieur, mais aussi d'exporter en Afrique. Au Nigeria, les équipes des scientifiques cherchent encore grâce aux 25 millions de dollars investis par l'État en janvier. 5 ans après la rupture de leurs liens diplomatiques, pourparlers entre l'Arabie Saoudite et l'Iran ont eu lieu dans le plus grand secret à Bagdad. Ils portent sur plusieurs grands dossiers, principalement sur la guerre à Yémen. Officiellement, l'Irak et l'Iran n'ont pas souhaité commenter et l'Arabie Saoudite a démenti la tenue de telles discussions.
L'invité.
Abbé Franck Mboma, prêtre de l'église catholique et chercheur et analyste sociopolitique résident en Allemagne, est notre invité. Il réagit sur la proposition de loi de Noël Tchani, ancien candidat à la présidentielle 2018. Il estime que conditionner l'accès au poste de président de la République par la détention de la nationalité congolaise de père et de mère est de nature séparatiste et discriminatoire. Monsieur l'abbé Franck Mboma s'entretient avec J.R. Lungembo.
Monsieur l'abbé Franck Mboma, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste Gérard Longembo Loabong-Andje.
Pourquoi estimez-vous non fondée la proposition de loi de Noël Tchani sur l'accès à la fonction du président de la République?
Nous avons suivi sa sortie médiatique. D'abord, il y a lieu de rappeler que la RDC, c'est un état de droit, et comme état de droit, la liberté d'expression, d'opinion, de la libre pensée est admise et garantie par rapport à beaucoup de sujets et matières. Par ailleurs, il y a lieu de nous questionner sur les vraies motivations de cette sortie médiatique, ça rime à quoi exactement? Personnellement, je trouve qu'il y a lieu de prévenir, car cette sortie médiatique nous semble comme un ballon d'essai lancé dans l'opinion des analystes avertis. Nous intervenons sur vos zones, nous suivons l'actualité du pays, nous savons comment ça se passe, nous savons comment cela s'est passé aux années passées. On ne va pas aller chercher des prophètes pour venir encore nous expliquer, ou bien on ne va plus aller chercher Jésus pour venir nous aider à comprendre. On peut déjà comprendre, mais par rapport à ce qui est dit dans cette proposition, bien dans cette opinion, il y a lieu de prévenir que nous sommes en train de traverser des zones de turbulence politicienne et socio-sécuritaire.
Alors que reprochez-vous concrètement à cette proposition?
Ce débat sur les critères de l'éligibilité du chef de l'État congolais ne s'arrêterait pas seulement là où lui pense les boucler en tout cas. Car si nous devons recourir aux dispositions constitutionnelles, il y a lieu de lui rappeler que le prescrit de l'article 72 au point 1 ne doit pas se lire de manière détachée, sans aucune allusion ou incidence avec ce que nous avons par ailleurs à l'article 10 dans son intégralité ou aux articles 12 et 13. Et c'est à ce niveau que nous nous écartons de lui et aussi de sa suggestion à cause des deux autres hypothèses qui peuvent lui être présentées comme objection. Admettons pour un premier cas que nous ayons un chef d'État issu des parents d'origine congolaise, des pères et des mères, pour nous mettre d'accord avec notre cher compatriote, le docteur Noël Tchad. Et admettons une réalité, une situation que le même chef d'État ait épousé une non-congolaise et qu'ils ont des enfants de double nationalité. Et si la République démocratique du Congo se trouvait par hasard en situation conflictuelle avec le pays de provenance de son épouse et avec des enfants qui viennent aussi en partie de ce pays, est-ce que la loyauté ou la neutralité dont il parle serait vraiment garantie quand il sera question d'établir par rapport à certaines questions très sensibles par rapport à la bonne marche de l'État? C'est une parenthèse que nous pouvons ouvrir, c'est une parenthèse qui nécessiterait encore des réflexions et des analyses. Et un deuxième cas que je peux encore évoquer, lui parle de la loyauté du chef de l'État qui ne peut provenir que de parents congolais. On peut se mettre d'accord avec lui. Mais comment réagirait-il si maintenant un autre compatriote venait avec un autre projet de loi qui dirait simplement ou qui suggérerait que tout Congolais qui a déjà acquis une autre nationalité ne pourrait pas compétir au fauteuil présidentiel, et cela en conformité avec les principes de l'exclusivité et de l'unicité de la nationalité congolaise tel que c'est dit à l'article 10. C'est à ce niveau-là que nous trouvons que la constitution de la République démocratique du Congo est déjà claire.
Pensez-vous que cette proposition va anéantir la dynamique imprimée par le chef de l'État qui tient à assouplir justement les conditions pour la diaspora congolaise qui souhaite retrouver ses origines?
On doit composer avec les gens qui peuvent faire quelque chose pour ce pays. On ne doit pas donner la nationalité à n'importe qui. On ne doit pas laisser la loi électorale devenir un boulevard où même des chiens viendraient passer et postuler. Mais il faut vraiment jouer sur le réalisme pour éviter que demain nous nous retrouvions encore dans des situations qu'on devrait éviter.
Que redoutez-vous alors?
L'on ferait mieux de ne pas susciter des élans des troubles qui ne nous apporteraient en réalité que des secousses populaires et aussi des tensions sociopolitiques comme ce qui se passe en Côte d'Ivoire, pour ne citer que ces cas-là comme exemple en face de nous.
Monsieur l'abbé Franck Mboma, merci de nous avoir accordé cet entretien.
Merci beaucoup aussi de votre part pour avoir pensé à moi.
Ainsi s'achève cette édition de nos informations. Merci à tous de l'avoir suivi. Dieudonné Nyangassa était à la mise en onde, Élisée Chikota à la coordination, Alain Irunga à la supervision. Je me nomme Nico Kalambay. Excellent début de semaine à tous.